France Inter.
France Inter, il est 13h. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Comment freiner la flambée des prix de l'essence, plus 30% ces dernières heures pour les cours du pétrole, avant une légère baisse ce matin. Emmanuel Macron s'empare du sujet, mais ni aide publique ni baisse des taxes prévues à ce stade. Nous verrons cela. Nous serons également en direct de Dubaï, habitués à l'opulence. Les habitants craignent de manquer de produits frais. Et en direct de Chine, les Chinois ménagent pour l'instant les Américains. Et puis à partir de 13h30, nous parlerons de la galère des entreprises françaises qui sont prises au piège de la fermeture du détroit d'Ormuz. Des parfums, des pommes, des médicaments, des milliers de tonnes de produits sont bloqués en ce moment. 01 45 24 7000 pour vos questions à notre invité. À suivre encore les municipales, le premier tour dimanche. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Et la campagne à Nice qui déborde sur le terrain judiciaire.
Une enquête qui tente de comprendre le plus rapidement possible pourquoi on a déposé une tête de porc devant le domicile du maire sortant, Christian Estrosi.
A tout de suite, et dans notre rendez-vous les clés des municipales, Maxence Lambrecq nous expliquera pourquoi les maires sortants sont globalement bien partis pour être réélus. À suivre également une batterie de mesures anti-tabac au Royaume-Uni et puis les Jeux Paralympiques en Italie, de nouvelles médailles françaises ce matin et un hymne russe pour la première fois dans une enceinte olympique depuis 2016. 13h45, notre feuilleton avec un jeune garçon du Maine-et-Loire. Sa passion, c'est élever des poules Pékin.
Là, on a trois petits poussins, sûrement deux mâles et une petite poule qui ont une petite semaine avec une lampe chaude qui descend pour les chauffer, de l'aliment et de l'eau.
Il se prénomme Luca. 13h50, c'est la France, en Haute-Savoie, avec une cavalière engagée dans l'aide aux femmes malades du cancer. Portrait signé Cécilia Arbona. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, l'autrice Camille Jounot demande les Pixies à Julien Baldacchino. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Avant d'en venir au cours du pétrole, cette image qui a frappé les esprits la semaine dernière, les joueuses de l'équipe nationale de football d'Iran qui, avant un match, refusent toutes de chanter l'hymne national. Ça s'est passé en Australie, en Coupe d'Asie des Nations. La télévision d'État iranienne avait même parlé à ce moment-là, je la cite, de « summum du déshonneur ». Or, aujourd'hui, ces joueuses doivent rentrer au pays. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Direction des sports de Radio France. Et beaucoup craignent pour leur sort.
Oui, parce que même si ce silence éloquent, aucune ne l'a expliqué publiquement, même si depuis les joueuses ont rechanté leur hymne lors des deux matchs suivants, en faisant même un salut militaire, leur silence a tout de même été interprété comme un acte anti-régime, comme l'avait été celui des hommes en 2022 lors de leur entrée en lice au Qatar. Alors à l'heure où elles devraient rentrer à Téhéran, plusieurs associations australiennes demandent que leur soit accordé l'asile politique. De toute façon, l'espace aérien reste fermé. Elles devraient donc rester en Australie une dizaine de jours jusqu'à la fin du tournoi. Mais cela pose plusieurs questions. D'abord, dans quelles conditions? Car dans l'encadrement des équipes iraniennes, même si rien n'est jamais officiel, il y a toujours eu, en tout cas, des gardiens de la révolution. Alors, quel est le degré de leur liberté sur place? Sont-elles libres de leur mouvement, de leur communication, ou sont-elles cloîtrées dans leur chambre d'hôtel? Difficile pour l'instant de le savoir. Et puis, au-delà des 10 jours, que peut-il se passer pour elles? La Fédération Asiatique de Football et la FIFA nous assurent surveiller la situation de près. Selon nos informations, les instances devraient les accompagner dans leur démarche d'asile, notamment pour celles qui ne souhaiteraient pas rentrer à Téhéran. Mais rien n'indique que ce soit une majorité, car beaucoup d'entre elles craignent évidemment des représailles pour leur famille restée sur place.
Récit signé Emma Sarango. Dans ce conflit, ce matin, l'Iran a à nouveau visé les infrastructures énergétiques des pays du Golfe. Un complexe pétrolier à Bahreïn a notamment été touché. Ce qui nous amène au cours du pétrole. Le prix du baril a augmenté de 30% ces dernières heures, flirtant avec les 120 dollars avant de baisser dans la matinée. Et cela pousse le président de la République à réagir. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Le chef de l'État vient d'arriver sur l'île de Chypre en mer Méditerranée. Chypre, membre de l'Union européenne, est ciblé par une attaque de drones iraniens la semaine dernière. Vous suivez ce déplacement, Marie. Et le président de la République s'inquiète de la hausse du prix des carburants.
Oui, car depuis 10 jours, Emmanuel Macron regarde le cours du pétrole s'envoler, les marchés qui paniquent, la spéculation aussi, souligne une source diplomatique, les pays qui interdisent l'exportation, avec à l'horizon les risques directs sur les prix à la pompe pour les Français. Alors mardi dernier, Emmanuel Macron avait bien évoqué l'idée d'une coalition pour tenter de libérer le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz avec des moyens militaires. Mais 6 jours plus tard, le projet est au stade du tâtonnement. L'Inde est intéressée, mais l'Italie, par exemple, est pour l'instant frileuse à l'idée d'y participer. Alors Alors d'ici là, la France est-elle totalement impuissante devant l'embrasement des prix? Emmanuel Macron veut croire que non. Il envisage de piocher dans les réserves stratégiques de pétrole, comme il l'avait fait déjà en 2022 lors de la crise énergétique dans la foulée de la guerre en Ukraine. Dégager des volumes pour contenir le prix à la pompe. Pour l'instant, c'est une option à l'étude. Comme il le dit lui-même, il y aura des gestes dès cette semaine, dit-il. Plus encore, il espère se coordonner sur ce sujet avec les dirigeants du G7 lors d'un appel téléphonique. Là encore, pour l'instant, c'est une simple piste.
Marie Mollet en direct de Chypre, on va vous retrouver dans un instant. Toujours sur ce dossier carburant, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé un plan exceptionnel de 500 contrôles en station pour détecter d'éventuelles hausses abusives. 500 contrôles d'ici mercredi. Nous demanderons des excuses publiques, dit ce matin la Fédération française des combustibles, carburant et chauffage après ces annonces. Arrêtons-nous donc sur cette flambée inédite des cours du pétrole, inédite depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Voilà ce qu'on disait ce matin sur Inter cet automobiliste normand interrogé par Ici Contentin.
Du coup, ils avaient dit que normalement, l'augmentation, c'était pas avant 90 jours avec les réserves françaises. Là, c'est même plus du vol, c'est du racket, quoi. C'est vraiment, là, c'est du racket. Pour aller au boulot, on n'a pas le choix d'y aller, quoi.
Question légitime, bonjour Alexis Morel.
Bonjour Jérôme.
Pas avant 90 jours, et oui, le carburant que les automobilistes payent en ce moment a bien été acheté par les raffineurs avant le début de la guerre, donc à un cours beaucoup plus bas. Pourquoi est-il si cher?
Alors tout le monde se renvoie un peu la balle, évidemment. Les distributeurs, ceux qui sont au bout de la chaîne, assurent qu'ils n'en profitent pas. Et la grande distribution, par la voix de Michel-Édouard Leclerc ce matin, cible donc, oui, les raffineurs, ceux qui transforment le pétrole en carburant. Pourquoi ce pétrole raffiné est-il déjà aussi cher alors qu'il est issu de pétrole brut acheté il y a plusieurs semaines? Pour Philippe Chalmin, économiste à Paris Dauphine, les raffineurs font en fait le choix d'anticiper, d'appliquer dès maintenant le coût de leur réapprovisionnement futur.
Quand vous vendez quelque chose et que donc vous devez racheter l'équivalent pour maintenir votre approvisionnement, est-ce que vous allez vendre ce que vous avez au prix où vous l'avez acheté ou au prix auquel vous allez le remplacer? Comme la plupart du temps, on fonctionne plutôt sur la base du prix auquel on va se réapprovisionner, bah il est assez logique que les raffineurs, ils vendent sur la base du prix du pétrole qu'ils vont racheter.
Et c'est ce qui donc pourrait expliquer, selon ce spécialiste, ce temps très court entre flambée des cours et flambée des prix à la pompe.
Alors, on l'a entendu avec Marie, Alexis, il y a une réflexion autour de l'utilisation des stocks stratégiques de pétrole. Mais ça, c'est pour éviter la pénurie. Ça pourrait faire baisser les cours?
Oui, au moins provisoirement, en tout cas. D'ailleurs, c'est déjà le cas. À l'aube, on frôlait les $120. Depuis que cette option des réserves stratégiques est évoquée, les cours ont déjà un peu baissé. Car si on puise dans ces réserves l'équivalent de 3 mois de stock, on augmente l'offre au moment où les marchés s'inquiètent de sa diminution. À court terme, donc, ça peut envoyer un signal au marché, atténuer la hausse des cours pendant quelques semaines. Mais ça ne suffira pas, c'est sûr, à casser la dynamique haussière.
Explication signée Alexis Morel. Face à ces hausses de prix, les pays d'Asie, qui subissent exactement le même phénomène, trouvent d'autres solutions. La Corée du Sud décide le plafonnement des prix des produits pétroliers quand le Vietnam, lui, supprime sa taxe douanière sur l'importation de carburant. Pour l'instant, il n'en est donc pas question en France. Toujours sur les conséquences pour l'Europe de cette guerre des États-Unis et d'Israël face à l'Iran. L'Iran s'est justifié ce matin en expliquant que les pays européens avaient contribué, je cite, à créer les conditions propices à ces attaques. Marie Mollet, on vous retrouve donc près du chef de l'État en direct de Chypre. Emmanuel Macron tente de rester dans le jeu.
Oui, avec de nombreux appels téléphoniques ces derniers jours. Hier, avec le président iranien Massoud Pezeshkian, un échange rugueux dans lequel il a évoqué le sort de Jacques Paris et Cécile Kohler pour tenter d'obtenir leur départ du territoire iranien et clarifier aussi le rôle de la France, protéger ses positions sans prendre part à l'effort de guerre contre l'Iran. C'est un canal utile que l'on s'attache à préserver, glisse une source diplomatique. Échange également ce matin avec le dirigeant israélien Benjamin Netanyahou à propos du Liban. Celui-ci s'est montré dur avec une volonté ferme de désarmer le Hezbollah et de s'en charger si l'armée libanaise ne le fait pas. Emmanuel Macron, qui lors de sa visite à Chypre se rendra également tout à l'heure sur le porte-avions Charles de Gaulle qui est arrivé en Méditerranée orientale pour se faire présenter le dispositif militaire. Un diplomate résume, on sait comment une guerre commence, on ne sait pas comment elle termine. Mieux vaut avoir des positions militaires proches du théâtre de guerre plutôt qu'à l'autre bout de la planète.
Marie Mollet en direct de Chypre avec les moyens moyens techniques de Michael Simon. J'ajoute que l'armée israélienne annonce ce matin mener des frappes de grande ampleur, c'est son expression, contre des infrastructures à Téhéran, la capitale iranienne, mais aussi Isfahan dans le centre du pays. Parmi les pays du Golfe qui subissent de plein fouet les représailles iraniennes et la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz, il y a les Émirats Arabes Unis, et notamment le plus connu d'entre eux, Dubaï, 4 millions d'habitants, Dubaï dont l'aéroport a été visé samedi. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Vous êtes notre envoyée spéciale sur place. Isabelle, ce qu'on va comprendre grâce à vous, c'est que les habitants payent cher ce conflit.
En tout cas, ils le surveillent de très près, comme Iman Nasri, qui depuis son bureau au 37e étage, avec vue imprenable sur les gratte-ciels, dirige une société de conseil et d'analyse des marchés de l'énergie.
La guerre en Ukraine a eu beaucoup, beaucoup moins d'impact. Aujourd'hui, 20% de la production mondiale de pétrole et de gaz sont bloqués et nous n'avons aucune alternative.
Et pourtant, dans les Émirats, personne n'est inquiet. Le prix de l'essence ici est fixé d'un mois sur l'autre, donc rien ne va bouger avant fin mars. Et le pays dispose de ressources en hydrocarbures quasiment inépuisables. Le vrai sujet, ce sont les produits frais bloqués dans le détroit d'Ormuz.
Tout ce qui est produit volaille de France, nourri au grain. Tout ce qui est canard, foie gras.
Elodie fait de l'import pour l'hôtellerie-restauration.
On attend aussi des produits des USA, tout ce qui est du poisson congelé. On a des consommations qui sont très importantes par des restaurants, hôtels. Ça représente plus d'une tonne par semaine.
Or, sa société a zéro visibilité.
Tous les cargos qui étaient planifiés pour arriver au mois de mars, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles. Donc, on fait des suppositions. On va se dire, ça va arriver au mois d'avril. Il y a un moment donné, en fait, personne ne sait. C'est ça le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas.
Le gouvernement diffuse régulièrement des messages rassurants sur l'état des stocks. Il assure que l'approvisionnement en nourriture est sa priorité.
Isabelle Labéry en direct de Dubaï avec les moyens techniques de Gilles Gallinaro. On reparlera et longuement à partir de 13h30 des conséquences pour les entreprises françaises qui font de l'import-export dans la région et il y en a dans beaucoup de secteurs. 01 45 24 7000 pour vos questions à notre invité. Avant cela, intéressons-nous aux autres fronts de ce conflit. Israël et le Liban. L'aviation israélienne a de nouveau frappé la banlieue sud de Beyrouth au Liban ce matin. C'est le fief de la milice du Hezbollah libanais qui soutient l'Iran et qui frappe régulièrement Israël depuis une semaine. Conséquence, le Parlement libanais reporte les législatives prévues au mois de mai pour une durée de 2 ans. Israël, qui a également été touché par des missiles iraniens ce matin, ces frappes ont fait un mort dans le centre du pays, un homme tué sur un chantier de construction. Alors, que peut-il se passer maintenant dans les prochains jours? Sachant que l'Iran a un nouveau guide suprême désigné hier, Mojtaba Rahmenei, fils de l'ayatollah Ali Khamenei, conservateur parmi les conservateurs. Cet homme a 56 ans. Il a perdu son père, sa mère et sa femme dans les frappes d'il y a 10 jours. Il est donc désormais le chef religieux, politique et militaire de ce régime. Bonjour Christian Cheneau.
Bonjour.
Peut-on parler d'un chef déjà en sursis?
Écoutez, à peine élu par l'Assemblée des experts, Mojtaba Khamenei est déjà dans le viseur d'Israël, mais aussi de Donald Trump, qui a fait savoir que celui-ci ne tiendra pas longtemps sans son aval. À Moscou, Poutine a félicité le nouveau guide et l'assure de son soutien indéfectible, tandis que la Chine s'oppose à toute action contre lui. Bref, entre menaces et déclarations de soutien, Mojtaba Khamenei avance sur un chemin de crête au milieu de périls. La tenue de son élection est en soi un défi à ses ennemis américains et israéliens, puisqu'elle s'est déroulée de manière clandestine pour des raisons de sécurité évidentes. Sa désignation montre qu'il n'y a pas de vacance du pouvoir à Téhéran et que, si d'aventure le nouveau guide suprême était éliminé lui aussi, un autre leader prendrait la relève. Depuis sa mise en place en 1979, le système politico-religieux de la République islamique a ainsi été conçu pour encaisser les chocs internes et externes. Aujourd'hui, le pouvoir iranien subit un test de résistance existentielle XXL, et c'est à Mojtaba Khamenei, un dur parmi les durs, qu'il revient de mener cette bataille. On attend son premier discours dans quelques heures.
Christian Cheneau, et tout cela sous le regard très attentif de la Chine. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Sébastien, vous êtes en direct de Pékin. Attentif, mais pour l'instant, les Chinois ne critiquent pas les Américains. Et le prochain sommet avec Donald Trump à la fin du mois n'est pas remis en cause. Pour quelle raison ?
Alors, et pourtant, la guerre contre l'Iran est particulièrement mal vécue ici à Pékin. D'abord parce que Washington s'attaque à un allié majeur de Xi Jinping. En finir avec le régime des mollahs est une manière de s'en prendre à l'influence chinoise au Moyen-Orient. Et puis, sur le plan économique, évidemment, c'est aussi une menace très forte sur l'approvisionnement de la Chine en pétrole. Alors, la réaction chinoise a été immédiate le week-end dernier. Condamnation très ferme de Pékin. Et ce matin, la diplomatie chinoise continue de soutenir son allié iranien en expliquant que le successeur d'Ali Khamenei ne devait en aucun cas être une cible. Des mots très forts donc, mais en parallèle, Pékin prend bien soin de ne pas se brouiller avec Washington. On l'a vu hier lors de sa conférence de presse annuelle. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a joué l'apaisement avec les Américains. La guerre en Iran ne doit surtout pas compromettre la visite de Donald Trump à Pékin à partir du 31 mars. C'est une priorité économique pour les Chinois. Cette visite doit permettre de consolider la fragile trêve commerciale conclue à l'automne dernier avec Washington. Alors, pendant que la guerre continue au Moyen-Orient, comme si de rien n'était, Chinois et Américains doivent se retrouver à Paris en cette fin de semaine pour préparer le face-à-face si Trump du 31 mars.
Merci Sébastien Berriot. En direct de Chine, comme nous l'étions il y a un instant, en direct de Chypre et en direct de Dubaï, avec tous nos envoyés spéciaux mobilisés comme depuis le début de cette guerre. On parlera de ce conflit évidemment dans nos prochaines éditions et dans le 18-20 autour de Fabienne Sintès, les municipales. J-6 pour le premier tour, notre rendez-vous, les clés des municipales dans un instant. Mais avant cela, cette campagne, dans une ambiance toujours aussi irrespirable, à Nice, fin février, une tête de porc ainsi qu'un message injurieux étaient retrouvés devant le domicile du maire, Christian Estrosi. Depuis, deux hommes ont été interpellés en fin de semaine dernière et le maire accuse les équipes de son grand rival, Éric Ciotti, lequel lui dénonce un contre-feu. Bref, c'est un nouvel épisode dans le duel sans merci qui oppose les deux hommes qui étaient autrefois très proches. Emmanuel Leclerc, on vous retrouve. Est-ce qu'on sait qui est derrière cette opération?
Alors, factuellement, on a deux suspects de nationalité tunisienne qui sont en détention provisoire. Les deux ont nié leur participation ou alors, indirectement, l'un d'eux a juste dit qu'il avait conduit trois amis devant le domicile de Christian Estrosi alors qu'il a été formellement identifié par vidéosurveillance en train d'acheter la tête de porc dans une boucherie de Digne-les-Bains, selon nos informations. L'un des deux suspects avait en tout cas proposé ses services à l'équipe municipale, en l'occurrence valoriser des contenus sur les réseaux sociaux, et il devait faire un essai quand il a été interpellé. Il a été en contact avec l'une des proches collaboratrices de Christian Estrosi à une dizaine de reprises. Les enquêteurs ont les SMS des échanges. Ce week-end, chez nos confrères de BFM, le maire de Nice a défendu sa conseillère tout en ajoutant, vous l'avez dit, que ce sont des proches de l'extrême droite du milliardaire Pierre-Édouard Sterrin qui chercheraient à le déstabiliser.
On a donc actuellement sur la table, Emmanuel, quatre hypothèses.
Un jeune homme qui propose ses services organise en parallèle une opération de déstabilisation en pensant qu'on aurait d'autant plus besoin de lui. Il a pu également obéir à une commande étrangère, une ingérence, et puis donc une barbouzerie politicienne locale ou une auto-manipulation, pour reprendre les termes de Christian Estrosi puis d'Éric Ciotti, chacun visant l'entourage ou les soutiens de l'autre avant même de connaître les résultats de l'enquête judiciaire.
Emmanuel Leclerc, ce qui nous amène aux clés des municipales, notre rendez-vous chaque semaine pour tout comprendre avant ce premier tour, c'est avec vous. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Chef du service politique, la question qu'on se pose aujourd'hui, Maxence, est assez simple. Est-ce que la prime aux sortants est toujours d'actualité ?
Oui, plus que jamais dans les petites communes. 85% des maires ont été réélus en 2020, selon les calculs du CEVIPOF. C'est moins le cas dans les métropoles, dans les villes de plus de 100 000 habitants. 72% de réélection. Mmh. Et ce chiffre devrait encore baisser cette année. Si on en croit les sondages du moment, la prime aux sortants s'estompe.
Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Et bien alors, cinq raisons. Un, l'appartenance politique s'effiloche. On passe plus facilement d'un camp à un autre, selon l'humeur du moment, le scrutin lui-même. Dans certains bureaux de vote, c'est flagrant. RN ou LFI à la présidentielle, LR ou PS au municipal. Les partis ne tiennent personne et ça n'aide pas les sortants. Deux, dans les grandes villes, le maire peut vite devenir le bouc émissaire des colères, narcotrafic, cambriolage, embouteillage, tout est de sa faute. Alors qu'en général, il n'a pas complètement la main, on l'a déjà vu dans les épisodes précédents. 3. plus le corps électoral est important, plus il est difficile à tenir, impossible de frapper à chaque porte, de représenter tous les quartiers, de répondre aux mille réalités de la ville. 4. La fin du cumul des mandats a fait perdre au maire son statut d'ambassadeur national. Le député-maire avait plus d'assises. 5. Emmanuel Macron a cru en sa bonne étoile et ça a marché. Ça donne des idées, des adjoints qui tentent leur chance, des majorités qui éclatent dans les grandes villes. Tenir tout le monde dans le même bateau pendant 6 ans, c'est pas évident.
Dans les plus petites communes, tout de même, Maxence, on va dire moins de 20 000 habitants, il y a toujours cette forte prime au sortant.
En effet, vous verrez peu de bascules dimanche prochain pour 4 raisons cette fois-ci. D'abord, le maire, quand on le connaît, qu'il nous connaît, qu'il s'installe dans le paysage, qu'il répond à peu près aux demandes, il est réélu parce qu'il participe du paysage. Pourquoi faire confiance à l'inconnu ? Le lien interpersonnel change tout. Ensuite, il est plus puissant que tous ses adversaires. Il a une notoriété qu'il est difficile d'égaler. Il est là, dans la presse locale, au moins une fois par semaine, invité à tous les événements. Et puis même si pendant la campagne, il n'a pas le droit de profiter de son statut, beaucoup contournent la règle et ont sorti l'an dernier, par exemple, un numéro hors série du magazine municipal intitulé « Bilan de mandat ». J'en ai un là, dans les mains. Vous voyez la photo. 5 années d'action à votre service. Ça fait 40 pages pour mettre en valeur toutes les bonnes actions.
Et ça fait jamais de mal. Il y a une troisième raison, Maxence.
Le maire a la meilleure des vigies pour préparer sa liste. Il sent dans tel ou tel quartier quel pourrait être le bon ambassadeur. Il repère les militants associatifs qui font bouger des voix. Il sent sa ville, sa dynamique politique bien mieux qu'un opposant qui, en l'espace d'un an ou deux, ne capte pas ses signaux faibles. Enfin, les bilans des maires sortants sont rarement catastrophiques, hein, difficiles même à caractériser. Un maire ne transforme pas sa ville en espace d'un mandat. Il n'en a ni le pouvoir ni l'argent nécessaire. Il ajuste, il modernise, il rénove. Et souvent, les municipales ressemblent à un stop ou encore, pour qu'une majorité dise stop, il faut parfois aller la chercher.
Merci Maxence Lambrecq. Les clés des municipales, vous retrouvez tout cela sur l'application Radio France. Il y a 10 numéros. J'ajoute également que ce 13-14 sera en direct de Saint-Dizier, mercredi entre 13h et 14h. Donc nous serons en direct du théâtre de la ville. Venez nombreux pour participer, pour prendre la parole dans ce 13-14 qui est le vôtre, évidemment, dans la limite des places disponibles.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
41 morts, 115 blessés à Crans-Montana dans la nuit du Nouvel An dans l'incendie du bar Le Constellation. Et cette enquête s'élargit encore aujourd'hui en plus des propriétaires français du bar, en plus du responsable du service de sécurité de la commune suisse et de son prédécesseur. 5 responsables et anciens responsables de la commune sont désormais inculpés. Aurélien Tirard, dont le président de cette commune.
Oui, son nom, Nicolas Ferraud, c'est lui que l'on voit tenir une conférence de presse devant les caméras du monde entier quelques jours après l'incendie. Il explique alors découvrir qu'aucun contrôle incendie n'a eu lieu dans le Constellation ces 5 dernières années. Des contrôles qui auraient pu alerter sur la présence d'une mousse acoustique au plafond du bar qui s'est enflammée la nuit du réveillon. Lors de sa conférence de presse, Nicolas Ferraud assure le regretter amèrement, mais ses affirmations sont depuis remises en question, notamment par l'actuel responsable incendie de la commune de Crans-Montana et son prédécesseur. Face aux magistrats, tout de l'assure, tous les élus de la commune savent pourquoi ces contrôles n'ont pas eu lieu, par manque d'effectifs et de moyens. Désormais, Nicolas Ferraud est visé par les mêmes chefs d'accusation que les propriétaires du bar où a eu lieu l'incendie. Il doit répondre comme eux d'homicide, d'incendie et de lésions corporelles par négligence. Il est également visé par une plainte de proche d'une victime grièvement brûlée dans l'incendie pour, je cite, manquement gravissime.
Précision signée Aurélien Tirard. Une jeune ado de 15 ans retrouvait le corps lardé de coups de couteau. C'était en décembre 2024 à Hill, près de Limoges. Sa mort avait provoqué une vague d'émotion dans la région. Son meurtrier présumé est jugé depuis ce matin devant le tribunal pour enfants de Limoges. Le procès va durer 2 jours. Il se tient à huis clos car cet adolescent avait 15 ans également. À l'époque, il était jusque-là inconnu de la police et de la justice. Un procès qui s'annonce particulièrement éprouvant et émouvant pour ses proches, Nathalie Colle.
Sa famille a très vite donné l'alerte en voyant que l'adolescente ne rentrait pas un vendredi soir après être sortie, en affirmant aller chercher des documents pour un stage. En fait, elle va rejoindre un garçon qui lui a donné rendez-vous via Snapchat. C'est lui qui est jugé pour lui avoir porté plusieurs coups de couteau, occasionnant une quarantaine de plaies. Identifié grâce à son profil sur le réseau social, ce garçon de 15 ans lui aussi est interpellé. Le lendemain, il commence par nier avant d'avouer les faits. À l'époque, il explique qu'ils se connaissent car il habite dans le voisinage et ils prennent le bus ensemble. Il l'attire en prétendant avoir un cadeau à lui remettre de la part d'une amie, une boîte à bijoux effectivement retrouvée près du corps. Mais en réalité, il veut lui voler son téléphone portable. Il dit alors avoir paniqué en entendant ses cris et en voyant qu'elle tentait d'appeler sa sœur au secours. Il est jugé pour vol avec violence ayant entraîné la mort.
Et peine maximum encourue puisque ce jeune homme est mineur, 20 ans de prison, précision ici Limousin. La lutte contre le tabac passe un cap au Royaume-Uni où les parlementaires doivent se prononcer définitivement aujourd'hui sur un texte qui prévoit d'interdire la vente de cigarettes aux personnes nées à partir de 2009. Donc interdit pour tous ceux qui auront 18 ans en 2027 d'acheter des cigarettes. Si le texte passe, les Britanniques vont fabriquer la première génération sans tabac et ce sera une première en Europe, Gaëlle Joly.
Le principe, c'est que l'âge légal de vente déjà fixé à 18 ans augmentera d'un an chaque année. Les adolescents d'aujourd'hui et tous ceux qui naîtront après n'atteindront jamais l'âge autorisé pour acheter du tabac de manière officielle au Royaume-Uni. Le texte interdit aussi les produits à fumer à base de plantes et le papier à cigarettes. L'objectif, c'est d'empêcher les jeunes d'entrer dans le tabagisme. En 2024, un peu plus de 10% des adultes britanniques fumaient contre 20% en 2011. L'enjeu sera aussi de réussir à faire appliquer cette restriction dans les points de vente, les buralistes. Les listes devront eux-mêmes contrôler l'identité des acheteurs. Sous peine d'une amende de 250 euros, ils pourront aussi perdre leur licence. Chaque année, le tabac cause environ 77 000 décès au Royaume-Uni et coûte au système de santé britannique plus de 3 milliards d'euros par an. À Londres, Gaëlle Joly, France Inter.
Les Jeux d'hiver, les Jeux paralympiques qui se poursuivent à Milan-Cortina, avec ce matin cette première depuis 2016, l'hymne russe a retenti dans une enceinte olympique. Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Bonjour.
En direct d'Italie pour France Inter, cet hymne a retenti pour la skieuse russe Varvara Voronchikina qui a remporté le Super G.
C'était il y a quelques minutes à peine.
Ladies and gentlemen, please stand if you are able for the anthem Russian Federation.
Respecté ici à Cortina et même timidement applaudi, patte politique pour les Jeux paralympiques. La dernière fois que le drapeau russe était hissé au-dessus d'un podium olympique, c'était en 2016 pour les Jeux d'été de Rio. Entre-temps, les Russes ont été suspendus pour dopage, puis bannis après l'invasion de l'Ukraine il y a 4 ans. Varvara Voronchikina était présente à Pékin il y a 4 ans avant que les Russes ne soient finalement bannis et c'était la veille de la cérémonie d'ouverture. Aujourd'hui, à 23 ans, elle est sacrée et soulagée.
C'est très spécial pour moi, en venant de Russie, d'avoir des soutiens ici en Italie. Ça a été dur car on n'a pas pu s'entraîner correctement, donc je suis tellement contente de ce qui arrive.
Et parce que les Russes n'ont pas d'autorisation de déplacement facilement, elle était donc à Méribel avec la Française Aurélie Richard, qui la connaît bien et qui a fait jeu égal ou presque aujourd'hui.
Aurélie Richard, qui fait partie des deux médaillés français du matin.
Oui, elle a pris l'argent avec son habituel sourire en bas de la piste tout à l'heure. Aurélie Richard, très satisfaite de cette deuxième médaille d'argent en deux courses. Surprise même, après des grosses fautes sur ce Super G qu'elle a moins maîtrisé que la technique. Surprise également de notre deuxième médaillé français, Jules Segers, qui prend une jolie médaille de bronze.
Ouais, j'y crois pas. Je pensais pas pouvoir faire une médaille aujourd'hui en Super G. C'était plus aussi pour le super combiné après, donc c'est incroyable.
Ouais, le super combiné, ce sera demain. On retrouvera aussi Arthur Bauchet qui a chuté ce midi. Grosse déception pour lui. La délégation française, Jérôme, a prévu un gros après-midi de récupération et de préparation avant demain matin.
On le connaît bien, nous, Jules Segers, Clara Lecoq-Réal, parce qu'on lui a consacré un feuilleton. Dans ce 13-14, on a été les premiers à vous en parler grâce à Noureddine Zidane. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur l'application Radio France. Celle-là, on l'avait vu venir. Merci Clara Lecoq-Réal en direct d'Italie avec les moyens techniques de Florent Bujon. 13h29 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo toujours très douce de Sophie Bria. Puis à partir de 13h30, comment nos entreprises se réorganisent depuis une semaine et la quasi-fermeture du détroit d'Ormuz, un lieu stratégique pour toute une partie de notre économie. On va tout comprendre avec notre invité 01 45 24 7000 pour nos questions. 13h45, notre feuilleton à la découverte cette semaine d'un jeune éleveur, il a 18 ans. Il élève des poules Pékin. Va nous dire pourquoi dans un quart d'heure. 13h50, c'est la France, c'est une chanson. Cécilia Arbona, Julien Baldacchino, bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Jérôme.
Cécilia, avec vous aujourd'hui, nous sommes en Haute-Savoie.
Pour le défi 72 heures chrono de l'association HOPE, un appel aux dons pour financer des stages d'équithérapie en faveur de femmes malades du cancer.
Et avec vous, Julien, une autrice.
Camille Junot, spécialiste en vulgarisation de l'histoire de l'art, elle nous raconte Where is my mind, l'original est des Pixies, la version au piano qu'elle a choisi et de Maxence Sirin.
Merci à tous les deux, à tout à l'heure.
Chez nous en Vendée, on ne se contente pas de fabriquer, on maîtrise, mesdames, messieurs.
Et comment ça ?
Regardez la brioche, moelleuse, le préfou doré, la mojette, délicieuse.
Et les Vérandas alors ?
Les Vérandas à Kenna sont elles aussi fabriquées en Vendée.
Et pourquoi la Vendée ?
Parce qu'ici, madame, le savoir-faire, c'est pas simplement un slogan. Akena, fabrication française certifiée, faite pour durer.
Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
Et sans le beurre salé, la vie serait tellement plus terne.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane pour des séjours en pleine nature, par tous les temps. À découvrir sur utopia.com.
Bonjour Sophie Briat.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Toujours de la pluie et un ciel bien couvert sur le Languedoc.
Eh oui, et ce temps fortement pluvieux par endroits, venteux et parfois orageux même, s'étend jusqu'aux Cévennes, le Gard et le Var cet après-midi. Et prudence, car les cumuls d'eau peuvent être importants entre le Gard et les Bouches-du-Rhône. À l'opposé, les Ardennes, la région Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et les Alpes profitent d'un temps calme et d'un soleil voilé, avec toutefois quand même un risque d'averse ou d'orage sur les reliefs des Vosges et du Jura. Et du Pas-de-Calais à la Bretagne et des Pays de la Loire au centre et à l'Aquitaine, bien le temps est changeant, alternant, entre éclaircies, nuages et averses, et une poche de luminosité persiste entre les Landes et la région toulousaine, tandis que du Limousin au Massif central et aux Pyrénées-Orientales, le ciel est plus couvert, avec un risque d'averses orageuses localement.
Et des températures, je le disais, qui sont toujours aussi douces.
Oui, absolument, il faut en profiter, car elles vont baisser au fil des jours, jusqu'à perdre 10 degrés à certains endroits. D'ici vendredi, ça sera surtout à l'est. En attendant, aujourd'hui, il fait de 13 à 19 sur la moitié nord, 13 à Quiberon, 18 à Paris, 19 à Strasbourg, sur le reste du pays de 12 à 19, 12 à Aurillac, 16 à Marseille, 17 à Bordeaux et 19 à Ajaccio.
Merci Sophie Briat.
France Inter. Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Anne-Sophie Fribourg.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans ce 13-14. Grâce aux moyens techniques, je le précise, de Maëlle Larfasseur. Anne-Sophie Fribourg, vous êtes la vice-présidente de TLF, l'Union des entreprises de transport et de logistique en France, c'est-à-dire l'organisme qui est chargé de défendre les intérêts de ces entreprises de transport auprès des autorités, qu'elles soient françaises ou internationales. Et vous en êtes la présidente de la commission maritime, donc vous êtes parfaitement informée pour nous répondre sur la situation dans le détroit qui est désormais le plus célèbre du monde depuis 10 jours, le détroit d'Ormuz, qui sépare le golfe Persique, son pétrole, ses pétrodollars, du reste du monde. Le trafic est quasiment à l'arrêt en raison de la guerre entre Israéliens et Américains d'un côté et les Iraniens de l'autre. Cela a des conséquences économiques très importantes pour nous, pour nos entreprises. On en parle ensemble. 01 45 24 7000 pour tous les auditeurs qui veulent vous poser leurs questions. Vous passez également via l'application Radio France et l'onglet Réagir. Anne-Sophie Fribourg, quelle est la situation au moment où l'on se parle dans le détroit? Est-ce que des navires ont pu passer ces dernières heures où rien ne passe?
Alors on entend dire que quelques navires sont passés dernièrement. C'est vrai qu'on a vu quelques navires de petite taille qui sont passés, des navires qui sont plutôt des navires appartenant à des compagnies maritimes chinoises. Pour le reste, c'est-à-dire les porte-containers qui sont donc la propriété des grands armateurs globaux qui transportent nos marchandises vers le détroit d'Ormuz, le passage est complètement à l'arrêt. On a environ l'équivalent de 10 porte-containers de 24 000, vous savez, ces gros porte-containers, oui. On a l'équivalent de 10 porte-containers qui sont bloqués aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz.
Il y a comme un laissez-passer pour les Chinois, si je vous comprends bien.
Écoutez, il semblerait qu'il y ait un laissez-passer pour les Chinois, mais en tout cas, aucun grand armateur ne passe dans le détroit aujourd'hui.
Combien de navires français sont bloqués en ce moment dans le Golfe ?
Il y a environ une dizaine de navires français.
Une dizaine
de différentes tailles, de différentes tailles, tout à fait.
D'accord. Alors évidemment, il y a des produits qui devaient rejoindre la France, d'autres qui sont des produits d'exportation qu'on envoie dans ces pays du Golfe. Quels sont les problèmes principaux pour ce qui ne passe pas ? Le pétrole, les engrais notamment, on parle beaucoup de ça ?
Oui, alors c'est une zone, ce qu'il faut savoir c'est que la région du Moyen-Orient est une zone d'importation plus que d'exportation. Donc effectivement les problématiques sont toutes nos marchandises que nous avons envoyées dans la zone donc du golfe Persique qui sont bloquées soit dans des ports alternatifs, soit dans des zones maritimes qui sont considérées comme sûres et qui sont donc sur les navires en attente de déplacement vers un port alternatif, vers
donc
une solution alternative.
C'est des ports de l'océan Indien, c'est là qu'ils sont...
Alors, c'est principalement les ports qui sont sur la côte est des Émirats Arabes Unis. Mm-hmm. Un port comme Corfacan, un port comme Fujairah, vont être des ports qui vont pouvoir être à terme des solutions alternatives de transbordement vers les ports du Golfe Persique, mais aussi un port comme Colombo, à Ceylan, où des navires sont également bloqués.
Oui, là, on est très loin encore de la zone. Ça, ce sont des bateaux qui doivent livrer leurs marchandises, en fait, hein, marchandises qui est vendue par les entreprises françaises. On entendait tout à l'heure, on avait un reportage à Dubaï avec Isabelle Labéry, on entendait des intervenants qui disaient on attend beaucoup de produits frais. On leur vend beaucoup de produits frais aux monarchies du Golfe ?
Bien sûr, c'est un des principaux produits, donc tout ce qui est frais. Alors le vrai frais, le périssable part bien sûr par avion, mais là encore on sait que la capacité aérienne a été réduite quasiment à néant sur cette zone. Mais nous vendons des produits laitiers, nous expédions également des poulets qui sont congelés et qui partent notamment sur l'Arabie Saoudite, qui est un grand marché pour les exportateurs français. Donc qui dit marchandises périssables dit besoin de transport en conteneurs réfrigérés. Et donc, problématique importante lorsque les navires n'atteignent pas leur destination après le temps de voyage imparti.
Ça veut dire que là, il y a des milliers de tonnes de poulets qui sont stockés dans les chambres froides sur les bateaux ?
Probablement, il y a beaucoup de poulets, beaucoup de produits laitiers, des fromages, et puis éventuellement, on exporte énormément de produits pharmaceutiques également, des médicaments qui sont également transportés en conteneurs réfrigérés vers ces zones.
Des parfums, des produits cosmétiques aussi.
Parfums, cosmétiques, tout à fait.
Donc ça veut dire que je suis Monsieur Sanofi ou Monsieur L'Oréal, en ce moment, je m'arrache les cheveux pour que mes produits arrivent à bon port.
Tout à fait. Et bien sûr, nous cherchons des solutions alternatives qui existent aujourd'hui. Hein. Le détroit d'Ormuz, il ne faut pas l'oublier, conduit à une mer morte, ce qui veut dire qu'on peut trouver des solutions alternatives. C'est très différent de la situation que nous avons connue dans le canal de Suez, qui était un passage quasi obligatoire pour tous les navires en provenance de l'Asie vers l'Europe, donc une des plus grandes routes maritimes du monde. Là, je dirais que la situation reste plus régionale, l'impact est moindre. Néanmoins, il faut trouver des solutions alternatives qui existent en utilisant des ports alternatifs et en utilisant ensuite des camions pour acheminer les marchandises vers les destinations finales, que ce soit le Koweït, Bahreïn, Qatar, les pays du Golfe.
Alors, la mer Rouge, c'est à l'ouest hein, de l'Arabie Saoudite, pour qu'on ait les choses au clair. Le Golfe Persique, c'est à l'est. Donc là, la crise, elle est plutôt à l'est, du côté de l'Iran, évidemment. Ça veut dire que font vos bateaux, Anne-Sophie Fribourg ? Ils s'arrêtent plus tôt, ils déchargent, la fin de la route, elle est faite par des camions ? C'est comme ça que ça marche ?
Exactement. Voilà. C'est la solution qui est... c'est une solution qui, bien sûr, est plus onéreuse. Plus coûteuse pour l'exportateur qui va devoir trouver une solution pour acheminer un camion depuis comme je vous le disais Corfacan ou vers les ports vers leur destination finale. Mais c'est de la route qui est envisagée en solution alternative avec des ports alternatifs également.
Ça veut dire qu'il y a des conséquences pour nos entreprises qui exportent ou pas spécialement finalement ces pays n'ont pas de la possibilité d'aller vers des concurrents, donc ils sont un peu prisonniers.
Des conséquences pour nos exportateurs qui sont des conséquences en termes de délai,
ouais,
et également en termes de coûts. Puisque les marchandises qui sont transportées, les armateurs aujourd'hui facturent à nos adhérents, à nos clients exportateurs
des surcharges. Ah, c'est celui qui vend qui supporte le coût ?
Tout à fait.
Ah, c'est l'exportateur, l'exportateur. C'est pas l'acheteur qui achète plus cher, qui supporte
Alors,
le coût.
Tout dépend de l'incoterm, mais je pense qu'on va
tout dépend
dans,
de...
dans le détail.
Je connais pas ce mot.
Tout dépend des termes de contrat de vente.
D'accord.
Ça peut être éventuellement un importateur.
Oui.
Mais sur la zone Moyen-Orient, on estime que c'est beaucoup à la charge de l'exportateur. Et finalement, à la charge du produit final, du produit qui va se trouver en rayon chez Carrefour à Dubaï ou dans un mall, dans un magasin de cosmétiques au Moyen-Orient.
C'est quoi ? C'est plus 10, plus 20, plus 30% ? On a une idée ?
Je dirais entre 20 et 30% aujourd'hui.
Entre 20 et 30% donc de coûts supplémentaires.
Du prix final, tout à fait.
On a plusieurs appels, Anne-Sophie Fribourg, sur le sort d'animaux vivants. Qui seraient exportés, qui seraient vendus. Martial de Langer nous dit qu'il faut parler des animaux qui sont en train de mourir dans les navires bloqués dans le détroit. Que deviennent les animaux vivants bloqués dans le détroit, nous dit Daniel de Strasbourg. Il y a beaucoup d'animaux dans ces bateaux.
Alors, la plupart des animaux vivants sont transportés par avion. Donc les compagnies aériennes ont bloqué leur fret d'animaux vivants, donc il n'y a plus d'animaux vivants qui se transportent par avion. Dans les bateaux, écoutez, honnêtement, je dois me renseigner parce que pour moi, il n'y avait pas d'animaux vivants sur les navires. Peut-être avez-vous plus d'informations ?
Moi, j'en ai pas plus, mais les auditeurs se préoccupaient de la
situation. C'est principalement du trafic aérien.
Justement, sur le trafic aérien, on a vu que les aéroports avaient pu être touchés. Ça veut dire que les routes aériennes, elles aussi, pour le fret, sont perturbées ?
Effectivement, il y a 30 000 vols qui ont été annulés depuis le début du conflit. Donc, on estime que c'est une contraction de 20% du trafic mondial et beaucoup de suspensions et d'annulations de vols sur tous ces pays. Des espaces aériens complètement fermés, Syrie, Irak, Koweït, Bahreïn. En revanche, on commence à voir un redéploiement de certains vols cargo, notamment avec les compagnies Etihad et Emirates. Donc, le trafic reprend de manière marginale aujourd'hui.
On a parlé de la situation donc du détroit d'Ormuz, le golfe Persique. Vous avez aussi dit un mot de la mer Rouge. Est-ce que le trafic se déroule normalement en mer Rouge, jusque notamment au canal de Suez ?
Tout à fait. Alors aujourd'hui, le canal de Suez avait repris du trafic ces derniers mois. Et l'année 2026, vous savez que depuis 2 ans, donc le canal de Suez était fermé et les navires transitaient sur la route maritime Asie-Europe par le cap de Bonne-Espérance, donc au sud de l'Afrique. Il était question depuis quelques mois et certains armateurs avaient commencé à tester la route du canal de Suez, de reprendre du transit via Suez. Aujourd'hui, cette route est totalement arrêtée. Et effectivement, nous attendons de voir quelle est la situation pour réenvisager un passage via le canal de Suez. Ça veut dire donc des transits maritimes qui restent beaucoup plus longs que via le canal de Suez. On a environ entre 10 et 15 jours supplémentaires pour une marchandise depuis la Chine sur le port du Havre quand elle transite par le cap de Bonne-Espérance.
Parce que les rebelles houthis qui soutiennent les Iraniens menacent les navires qui passent au large du Yémen en mer Rouge, c'est ça le problème ?
Tout à fait, parce que la route n'est pas sécurisée aujourd'hui.
Et la route n'est toujours pas sécurisée. Justement, sécuriser ces routes maritimes, Emmanuel Macron en a dit un mot lors de son allocution mardi soir en voulant monter une coalition. C'est ce que vous attendez aujourd'hui, vous, représentants des entreprises de transport et de logistique, qui est quoi ? Des convois militaires, par exemple ?
Oui, par exemple, cela a déjà eu lieu au début du canal de Suez, lorsque la route lorsque le transit a fermé, il y a eu des escortes militaires de certains navires.
Donc la flotte française ou d'autres flottes pourraient s'organiser pour sécuriser
le... Je crois que c'était une coalition, ouais,
une coalition
européenne.
C'est ce qu'a évoqué effectivement le président de la République. Ça, c'est votre souhait aujourd'hui ?
Si vous voulez, aujourd'hui, la route du Cap de Bonne-Espérance fonctionne bien. Les importateurs et les exportateurs ont réglé leurs stocks, leurs approvisionnements sur ces temps de voyage. Donc on peut considérer, et les armateurs ont redéployé leur flotte sur les routes maritimes avec ces nouvelles informations, on peut considérer que cela fonctionne. À terme, ce n'est pas une route naturelle, cela coûte plus cher et c'est plus long. Donc il est important qu'un jour, on revienne vers la route naturelle entre l'Europe et le Moyen, et l'Extrême-Orient. Pardon.
Et puis ça ne règle pas le problème des engrais pour les agriculteurs et du pétrole pour tous ceux qui circulent, que ce soit les particuliers ou l'industrie.
Oui. Ouais. Et encore une fois, Hormuz est un problème différent.
La question des assurances, aujourd'hui, si jamais le trafic devait reprendre, est-ce que les assurances ne seraient pas à un niveau inatteignable pour les transporteurs?
Assurer un navire aujourd'hui à un niveau très élevé.
Très élevé. Est-ce qu'il y a moyen de les faire baisser? Est-ce qu'une pression politique, Donald Trump a dit qu'il était capable de le faire, pourrait faire baisser ces prix des assurances?
Alors les compagnies d'assurance ont annoncé une augmentation des primes, hein, aussi bien pour les marchandises que pour les navires. Ça implique donc des coûts supplémentaires très importants. Ça pourrait impliquer une paralysie du commerce. Et effectivement, l'administration Trump a mesuré l'ampleur de la menace. Et le président Trump a ordonné de fournir un prix très raisonnable des garanties pour la sécurité financière de tout commerce maritime. Voilà, donc il y a des discussions autour de ça. Il faut qu'on voit comment la situation évolue.
Est-ce qu'il y a la tentation de traiter directement avec les autorités iraniennes pour des grands groupes, de négocier le passage?
C'est possible. Moi, je pense qu'il y aurait plutôt une pression internationale coordonnée qui devrait se faire. Et s'il y a des discussions, ce sera plutôt au niveau des grandes puissances qu'au niveau des grands groupes.
Vous souhaitez que ça soit au niveau des grandes puissances, mais vous n'écartez pas qu'il y ait des groupes qui soient tentés d'aller discuter directement, si je comprends bien.
Au jour d'aujourd'hui, je l'ignore.
Ouais, d'accord. Question de Benji, qui est l'un de nos auditeurs. Je vous la transmets, Anne-Sophie Fribourg. J'espère que vous parlez des marins français qui sont bloqués à bord et qui sont souvent la dernière préoccupation du transport maritime. Nous dit-il, nous avez dit qu'il y avait une dizaine de navires français bloqués dans le Golfe. Est-ce qu'on peut savoir combien de marins? Est-ce que vous avez une idée?
Je n'ai pas d'idée, mais il y a des marins français qui sont bloqués, mais qui sont alors les navires qui sont bloqués dans le Golfe Persique sont à quai des grands ports donc les marins sont en sécurité, mais avec un risque, mais comme tout un chacun qui est à Dubaï aujourd'hui ou dans un coin du Golfe, il y a des missiles qui sont lancés. Les marins, les équipages sont sécurisés autant que faire se peut.
Mais ils
ne
sont pas
armateurs.
En pleine mer. C'est ce que vous nous précisez.
Il peut y en avoir qui sont en pleine mer.
En pleine mer. Merci d'avoir été avec nous, Anne-Sophie Fribourg, et d'avoir répondu à toutes ces questions. Elles sont très nombreuses en ce moment sur ce sujet. Vice-présidente de Transport et Logistique de France. 13h47. Une semaine dans leur vie. Notre feuilleton, tout autre chose. Il nous conduit cette semaine dans le Maine-et-Loire. Saint-Mathurin-sur-Loire, nous ne sommes pas très loin d'Angers, à la rencontre d'un jeune homme avec une passion singulière. Il s'appelle Luca Vio, il a 18 ans, il est étudiant, il est éleveur de poules Pékin. Il est même vice-champion de France de la spécialité. On fait connaissance avec lui grâce à notre reporter Sarah Mansoura.
Bah là, on est dans notre garage. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une poussinière qu'on a fabriquée maison. Un gros rectangle qui est fermé de partout avec une lampe chaude qui descend pour les chauffer, de l'aliment et de l'eau, tout simplement, avec une litière en copeaux. Là, on a trois petits poussins, sûrement deux mâles et une petite poule qui ont une petite semaine. Donc là, on peut voir apparaître les premières plumes aux ailes. Hop ! Voilà, c'est vraiment pas gros. Je sais même pas quelle taille ils peuvent faire, mais en tout cas, c'est tout léger. Alors bonjour, moi je m'appelle Luca Vio, j'ai 18 ans, je suis actuellement en études en école d'assistant vétérinaire à Angers, Beaucouzé précisément, et j'ai un petit élevage de volailles d'ornement. J'ai divisé le box en quatre parties pour pouvoir mettre mes reproducteurs que j'ai sélectionnés. Du coup j'ai bien sûr mis mangeoires, abreuvoirs, des pondoirs pour que la reproduction elle commence à se mettre en route. Là, il y en a 4, 5, 6, 7, 8. Là, il y en a une dizaine de reproducteurs. Donc là, les poules, elles ont commencé à pondre il y a 3 bonnes semaines maintenant. J'ai 3 parcs où il y a un mâle et 2 femelles et un parc où il y a un mâle et 4 femelles. J'ai eu mes premiers poussins. Là, j'en ai 3 actuellement. J'ai des couveuses qui sont mises en route. celui-ci qui va avoir les plumes des ailes très très courtes. On peut voir que c'est un petit mâle. Et la deuxième, donc la petite poule qui a déjà des ailes bien plus longues et bien plus formées déjà. Jusqu'à à peu près un mois, ils vont pousser vers le haut et puis après ils vont descendre. Il faut attendre minimum 2-3 mois pour faire une présélection, pour être sûr, quoi.
Et là, il y en a d'autres qui sont attendus, il y a des œufs.
Je peux vous emmener au niveau des couveuses, qui est juste ici. Donc là, on est dans une salle chez moi, à côté des machines à laver. Et donc, c'est là où se passe la période d'incubation, donc où j'ai mes couveuses qui sont mises en place. Une de 24 œufs et une de 9 ou 10 œufs, je ne sais plus. Ça, c'est mes parents, et puis ça, c'est un cadeau de Noël. On peut voir des œufs qui vont éclore à peu près dans 13 jours. La température est de 37,7 degrés. Très précis, oui, oui. Très, très précis. Au bout des 3 derniers jours, il va falloir remplir les bacs d'eau pour qu'il y ait un taux d'humidité assez présent pour que le poussin arrive à percer la coquille correctement, pour que la coquille se ramollisse un peu. En fait, quand les poules pondent, bah, je récupère les œufs tous les soirs. Je note à qui appartient l'œuf pour que je reconnaisse par la suite quel poussin vient de quel parc. Et puis ensuite, une fois que j'ai un nombre d'œufs que je veux, bah, hop, je les mets en incubation. J'attends une semaine. Au bout d'une semaine, ce que je vais faire, c'est je vais les mirer, donc pour voir s'il y a un embryon dedans ou si l'œuf est clair. Avec ma lampe de téléphone, je vais placer l'œuf dessus et je vais voir, en fait, bah, on peut voir si vous voulez. On se met dans le noir. Par exemple, ceux-là, hop. Oui, celui-là, par exemple, on va pouvoir voir qu'il y a un poussin dedans. Donc on voit tous les vaisseaux, tout le contour. Donc le poussin qui est en train de se former. Et puis après, au bout de 21 jours, le poussin est censé naître. En fait, le poussin va faire une rotation dans l'œuf et va tourner et va couper l'œuf en deux. Et puis on va voir au tout début des petites marques et puis ils vont commencer à piailler.
Un peu de légèreté dans le contexte, ça fait du bien. Une semaine avec Luca, éleveur de poules Pékin. Deuxième épisode demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le lundi, 13h51, Cécilia Arbonnat nous parle d'une personnalité qui fait l'actualité. Aujourd'hui, Cécilia, une course contre la montre en Haute-Savoie.
72 heures chrono pour recueillir de l'argent en faveur des femmes touchées par le cancer. C'est le défi lancé pour la 4e année par Annabelle Brouran, une cavalière propriétaire de chevaux à Saint-Sergue. Cette Amazone galope depuis 2017 à la tête de l'association Hope qu'elle a fondée pour venir en aide à des malades comme elle. Le jour où j'ai réalisé mon rêve de petite fille, nous dit-elle, en achetant les écuries d'un château, eh bien on m'annonce que j'ai une tumeur au sein. Mmh. J'avais 44 ans, j'étais mère de 4 enfants, tout petit, âgé de 7 à 12 ans, et je ne pouvais pas m'effondrer. J'ai dit à mon médecin, ok, vous me retirez le sein malade, et après, je remonte vite à cheval. C'est un animal non jugeant, il aide à nous reconstruire par la puissance et la tranquillité qu'il dégage.
Et c'est le début de l'aventure des séjours d'équithérapie.
Oui, Annabelle Brouran propose des ateliers dans 8 centres équestres en France, un autre en Suisse. La chimiothérapie et la radiothérapie, dit-elle, abîment nos corps. Et quand on achève les traitements, souvent nos proches nous disent « Ah, c'est fini !» Mais pour le malade, le plus difficile commence, surtout si on n'a pas d'amoureux ni de cercle amical solide. On revient à la maison avec notre solitude et notre angoisse d'y rester. On ne croise plus les soignants qui nous donnaient de l'énergie. Nos stages permettent en fait aux femmes de lâcher prise, de s'autoriser à dire « j'ai la trouille ». Annabelle Brouran sait de quoi elle parle, elle affronte son 4e cancer.
Et lors de ces stages, des groupes de parole sont organisés avec des professionnels.
Oui, comme le docteur Bérénice Delétang, elle est cancérologue, médecin associé des hôpitaux universitaires de Genève. Je propose des cafés et des apéros Enco, annonce-t-elle joyeusement. Elle poursuit. Les patientes côtoient la mort, ce qui impacte profondément leur santé mentale. Elles ont besoin de poser 1000 questions. Car en consultation, que ce soit en France ou en Suisse, il faut aller vite. Les rendez-vous s'enchaînent. J'en profite d'ailleurs pour lancer une alerte sur votre antenne. Il faut inciter les femmes à se faire dépister. La maladie touche de plus en plus de jeunes. Alors, avec Octobre Rose, le grand public est sensibilisé, oui, au cancer du sein, mais mais c'est une catastrophe pour le pancréas ou le colorectal. Il y a une chape de silence, comme une gêne ou pire une honte à aller demander un kit à la pharmacie pour analyser ses selles. Il faut faire sauter les tabous et lever des fonds.
Et donc l'appel aux dons démarre demain 9h.
Pendant 3 jours, vous pouvez aider l'association HOPE, H-O-P-E, qui signifie espoir en anglais. Vous envoyez 5 euros, 10 euros ou davantage bien sûr, pour financer des stages. En 4 ans, 900 femmes ont pu bénéficier de séjours gratuits pour danser et chanter avec un cheval comme partenaire, des ballerines un petit peu cabossé, mais combative dans les nuages de poussière d'un manège.
Histoire racontée dans ce C'est la France par Cécilia Arbona. C'est une chanson, Julien Baldacchino. Votre invitée est autrice, elle est spécialisée dans la vulgarisation artistique.
Elle s'appelle Camille Jounot, révélée par le compte Instagram La Minute Culture, et qui vient de sortir son 2e livre, Ulysse, Athéna et les autres, c'est le titre. Livre consacré aux représentations de la mythologie dans la peinture. Elle a choisi de parler d'une chanson qu'elle aime, mais en commençant par évoquer une reprise. La chanson, c'est Where is my mind des Pixies, et la reprise au piano, elle est signée Maxence Cyrin.
Le morceau des Pixies, bon, il est sorti à la fin des années 80. Moi, je l'ai connu en 99 quand il sort dans la BO de Fight Club. Donc, c'est une musique qui, soit par la version des Pixies ou soit par l'arrangement de Maxence Cyrin, a toujours un peu fait partie de ma vie finalement. L'hybridité de l'arrangement au piano m'intéresse parce que cette hybridité, elle me ressemble. C'est-à-dire qu'on a le piano qui est un instrument qui porte une certaine mélancolie, c'est un instrument du classique qui répond à certains goûts chez moi. Je peux écouter Chopin, Satie ou aussi des compositeurs contemporains. Et en même temps, ce morceau, il est adapté de la version rock des Pixies, qui aussi correspond à des goûts. J'aime beaucoup le rock, j'en ai beaucoup écouté pendant mon adolescence. Et donc, il y a cette hybridité, et elle fait écho, je pense, à qui je suis, parce que j'ai moi-même l'impression d'être une personne hybride. C'est-à-dire que, à la fois, j'écris des livres, mais j'écris pour Instagram. J'ai fait toute ma carrière dans le numérique, mais en même temps, j'ai des goûts qui sont très tournés vers la Renaissance italienne, vers l'Antiquité, la mythologie. Je ne l'ai pas toujours bien géré, je crois. Il y a des moments où je n'ai pas toujours eu l'impression d'appartenir à mon époque. Je pense qu'avec avec le temps, avec l'âge, la maturité, on apprend à vivre avec ça. Et je pense qu'aussi, ça dépend des environnements dans lesquels on est.
Et cette version au piano, Julien, elle vient d'un album de reprise signé Maxence Cyrin et qui a été utilisé dans la bande-son de la série Mr. Robot.
Et qui donne pour Camille Jounot un sens nouveau à la chanson.
Ce morceau, pour moi, il résiste à la lassitude. C'est-à-dire que je l'écoute très régulièrement, tout le temps. Il transperce les époques avec moi. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais passer d'un morceau à l'autre. Donc parfois, j'ai envie de la version piano quand je suis dans des phases un petit peu plus mélancoliques. Et parfois, je vais avoir envie d'écouter la version originale des Pixies, qui est un peu plus à fleur de peau, un peu plus écorchée, un peu plus directe, finalement, et qui répond davantage à ce que je pouvais vivre en tant qu'ado. Je la trouve multisensorielle d'une certaine manière. Il y a quelque chose de très lancinant hein, dans cet accord sur 2 notes à la guitare. Il y a la voix du chanteur qui est rauque, il y a les guitares qui sont rugueuses, et derrière vous avez les chœurs qui font un espèce de wouh. Bon, alors je chante très fort, mais en fait, quand on entend ces chœurs-là, j'ai une image d'un phare en fait, parce qu'il y a quelque chose qui s'en va et qui revient. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que cette idée du phare, c'est quelque chose qui permet de se situer. Or, le morceau s'appelle Where is my mind. Donc il y a quand même quelque chose dans ce morceau qui dépasse la musique et qu'à mon époque d'ado, je ressentais dans ma chair. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'écorché qui est un peu à vif. Quand on écoute la version au piano, On sent qu'il y a une temporalité qui est passée dessus. Il y a du temps qui a passé. C'est la mélancolie, c'est un peu la même idée, mais vue de plus tard. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la chanson des Pixies, originellement, porte un point d'interrogation dans son titre, Where is my mind? Et la chanson de Maxence Cyrin, elle n'en porte pas. Et donc, je me suis demandé si finalement la version piano n'était pas une réponse à la question des Pixies.
Une des métaphores que vous avez utilisées, c'est celle du phare. Est-ce qu'une chanson peut être à un moment un phare dans le brouillard de l'adolescence ?
Oui, je pense que oui, parce que les œuvres, hein, quelles qu'elles soient, encore une fois, la musique et d'autres formes artistiques, ça permet de trouver un écho à ce qu'on vit, donc se rendre compte qu'on n'est pas seul, et aussi peut-être à avoir le sentiment d'être compris et à dépasser ses souffrances, ou en tout cas à trouver un endroit pour les projeter et à les sortir de soi-même.
Magnifique d'avoir les deux versions, Where is my mind, les Pixies et Maxence Cyrin. C'était le choix de Camille Jounot.
Et son livre s'appelle Ulysse, Athéna et les autres. Il est disponible aux éditions du Chêne.